Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On y va?
Allez!
Cool! Bonjour tout le monde, bonsoir, comment ça va?
Ça va, c'est la folie ici!
Oh oui!
Accrochez-vous! La jolie
c'est bon,
je suis Louise Petrouchka!
Ah, c'est faux!
C'est faux!
C'est faux!
Louise est en vacances.
Oh.
On n'a pas idée.
On pense à elle.
Bah oui.
Elle nous manque.
Est-ce que c'est le premier épisode de Laisse-moi kiffer sans Louise?
Mais non.
Non.
Ah.
Bon, c'est vraiment ça pas va, une fidèle auditrice.
Parce qu'elle était déjà en vacances il y a peu de temps. Et on l'a fait, tu sais.
Travaille pas beaucoup celle-là.
On a surtout une petite pensée pour elle parce qu'apparemment elle est chez sa frangine dans les Pyrénées et elle doit faire pipi ou caca dans des toilettes sèches.
Ouais, sans doute. C'est hippie land là-bas. Elle m'envoie des photos, il y a des feux de bois, c'est incroyable.
Des feux de bois, c'est mieux que les toilettes sèches. Qu'est-ce qui est mieux, les toilettes sèches ou les feux de bois?
Bah, les feux de bois quand même, c'est plus agréable.
C'est clair. On est donc aujourd'hui avec. Vous avez l'habitude de la.
Voilà. De l'entendre.
Dans ce podcast. C'est Queen Camille, bonjour.
Oui,
bonjour,
Queen Camille.
Ça va, les gens? Oui, hein.
Bonjour.
Bonjour, pardon.
On fait donc à tous les deux la moitié de la team sucré-salé. Il n'y a plus personne, tout le monde déserte. Heureusement, on a deux invités de marque exceptionnels aujourd'hui.
Oui.
Bon.
Que vous avez déjà entendu dans ce podcast. Marie Vrignot qui travaille à la régie, c'est Mademoiselle. Salut Marie.
Oui.
Marie Vrignot.
Bonjour. Je suis très contente d'être à nouveau ici avec une autre partie de l'autre team. Très
c'est contente. Vrai. Exactement. Exactement. Marie qui est une grande auditrice. Je ne sais pas si tu. Parce que...
Mais je sais, elle est grande auditrice.
J'ai toutes les refs.
Laisse-moi kiffer.
Elle les a toutes.
Ouais.
Et il y a également. Mao qui est là ce soir, bonsoir.
Enchanté monsieur.
Enchanté bonsoir. Monsieur, bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie.
C'est moi qui ai invité Mao car c'est une humoriste de talent.
Ah. Voilà,
qui est à son aise. Niveau de coincé, 8 sur 10 pour le moment.
Bras croisés, jambes croisées, on est au top.
J'ai descendu à 6, je sais pas.
Tout va bien se passer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mao?
Je suis journaliste. Je travaille chez LCI et je fais du stand-up. C'est là que j'ai rencontré Queen Camille sur les planches.
Trop bien.
Sur les planches.
Ouais. Et oui.
Sous les feux de la rampe.
Théâtre. Voilà, et je fais du stand-up de type LOL, un petit peu engagé.
Oh.
Oula.
Oh.
Voilà.
Tu veux dire que tu dis oh les harceleurs de rue.
Les hommes nuls.
Tous les hommes sont nuls, c'est ça. On est dans de la misandrie, c'est super. Ouais, on adore la misandrie chez Mademoiselle.
Dans 3 secondes, j'appelle à l'extinction de la moitié de l'humanité. Ça a bien se passé.
Parfait.
Non, écoute. Non, c'est juste avec des copines, on a créé une scène qui s'appelle le Comedy Love. Parce qu'en fait, je sais pas si t'as commencé à le découvrir, mais le stand-up est un milieu qui est structurellement sexiste. Du coup, on a créé une scène qui est féministe et solidaire. Les fonds reviennent à une association différente à chaque fois.
Okay.
Voilà, et un peu LGBT. C'est, j'ai fini mon truc de présentation.
T'as raison, fais ta promo, c'est le moment.
Alors,
mais plus ça va, ceci dit, plus ça va, moins ça va. C'est-à-dire que je pense qu'en termes de sexisme, ça s'améliore. En tout cas, moi, je traîne dans le milieu depuis un petit moment, depuis 10 piges à peu près. Et franchement, c'est mieux. Il y a plus de meufs déjà.
Ouais. Ouais. Moi, en 2 ans, je trouve que ça va mieux, mais aussi parce que je pense qu'en 2 ans, j'ai fini par rencontrer les bonnes personnes.
Ah, oui.
Mais,
oui.
Mais j'ai eu plein d'expériences traumatisantes. Alors, j'ai des toutes notées, j'ai des screens, et le jour où je suis connue, je fais un article.
Tu vas
sur toi.
Tu vas balancer des.
Comment pâler dans la mare.
Tu vas balancer des doses.
Je vais balancer tous mes ports du stand-up.
Oh my god.
Je suis désolée, écoute, on va s'amuser.
Je pense qu'ils vont tous t'inviter dans leur plateau de cette.
J'ai trop hâte.
Ils sont très très heureux. Est-ce qu'on a des commentaires par rapport à l'épisode précédent?
Non, moi j'ai pas eu de commentaires. J'ai eu des nouveaux comptes Instagram et je vous remercie encore de mecs hot faisant divers trucs. Donc, suite à Boys with Plants qui a enflammé les foules, on m'a envoyé, je sais plus si j'avais déjà parlé de Hot Dudes Reading Books.
Ben, on en a parlé ensemble la semaine dernière. La fois de passé.
Ouais. Ok, alors j'en ai un nouveau pour vous. C'est Hot Dudes with Hummus.
Oh,
que des garçons sexy torse nu avec des petites coupelles de hummus. La meilleure chose.
On adore.
Mais Est-ce que c'est des photos complètement différentes de tas de comptes, c'est ça? Ou alors c'est un compte qui fait toutes les mêmes photos avec des beaux gosses?
Ah, c'est un compte, c'est comme avec les plantes, comme avec les mecs qui lisent.
Non, les plantes, là, les plantes ils vont chercher des.
Ah
c'est,
oui,
c'est
non,
d'autres comptes.
Oui, là c'est pareil, si tu veux.
C'est la curation.
Ça vient de différents endroits d'internet, et le point commun c'est qu'ils sont hot et ils tiennent du houmous dans la main.
Alors j'ai vu qu'il y a une marque de préservatifs qui a lancé des préservatifs au houmous il y a pas longtemps.
Non.
Est-ce que c'est lié? Je sais pas.
Mais écoute, je vais mener
j'ai
l'enquête.
Ça passer, ça.
J'ignorais cette info.
C'est goût?
Ouais, c'est goût au houmous.
C'est bien pour l'apéro.
Ouais, exactement. Pour se mettre en bouche.
Bravo.
Excellent.
Magnifique. Vous avez eu d'autres commentaires, les filles? Non, bah non. Parce que...
Moi, j'avais des commentaires quand j'ai fait l'épisode. Oui, 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 oui.
Qu'est-ce que t'as eu comme commentaire?
J'avais eu une.
Alors, attends, t'étais dans quel épisode pour situer?
Je crois que c'est le 42.
Ah, et la meuf s'en souvient.
Non, je sais plus. Mais j'avais du coup des meufs qui m'avaient dit c'est quoi l'adresse de barbecue coréen que t'as testé? Parce que ça me donne envie d'y aller. Et notamment une meuf qui voulait faire la surprise à son mec pour son anniversaire. Et après, quelqu'un qui m'a aussi dit trop cool que tu parles d'Israël, c'est un pays trop peu connu, en fait, trop chouette. Donc, c'est chouette. Voilà, et voilà, j'étais trop contente. Donc, ça date un peu, mais j'avais vu des commentaires. Donc,
la classe.
Merci à vous, ça fait plaisir.
Mao, on mettra ton Instagram. J'imagine que tu as un Instagram. En tant que, comme ça, tu recevras des DM des gens qui vont venir commenter tes
trop
trucs.
Cool.
Venir dire c'est de la merde!
J'ai trop hâte. Non, moi, le seul commentaire que j'ai eu aujourd'hui, mon père m'a dit que j'étais la plus belle. Voilà,
yes.
Un truc objectif et bien sûr objectif de sa part.
Moi, je trouve que c'est vrai.
Arrête, tu me fais rougir.
Bon, cool. Est-ce qu'on se cool. Merci, papa. Donc.
Non, j'ai rien là-dessus.
Pas de vanne complémentaire. Est-ce qu'on se lance dans le premier mini kiff?
Oh oui.
On fait un petit jingle ou pas?
Oui.
Tu fais un jingle, Mao?
Oui. Non, je suis mal à l'aise. Fais un son où on le fait tous ensemble.
Vas-y, tu veux qu'on te fasse un beat?
Oh oui, fais-moi un beat.
Oh, putain, je sais pas faire ça en fait.
Vas-y, je grave nul à ça. Je vais essayer de chipper. Est-ce que toi tu veux chanter un truc? Allez, c'est le début du podcast. J'ai mis tout le monde mal à l'aise. Frappez dans vos mains si vous l'êtes. Connasse.
Tu n'as pas donné l'info essentielle, ceci
quoi
dit, qui est qu'on passe tout de suite au mini-kiff.
Ah, on passe au mini-kiff, putain.
Vraiment, on l'avait. Ceci dit, j'imagine tous les gens qui sont en train de faire clap-clap dans le métro.
De malaise.
C'est moi, ça.
J'ai reçu plein de commentaires, d'ailleurs, de gens qui m'ont dit « Moi, je lâché ma mâchoire et j'ai eu l'air ridicule parce que la fois passée, je parlais de détendre sa mâchoire. » Tu l'as fait aussi?
Of course. J'étais dans le métro, en plus, vraiment.
Tous les gens qui avaient... Tu sais, parce que je parlais de ça, de relâcher sa mâchoire.
Tu le fais comme ça?
Ouais. Tu la lâches complètement. Camille, tu commences?
Ouais, alors ça tombe hyper bien parce qu'en plus j'ai bien préparé cet épisode.
Ouais.
Je sais exactement de quoi je vais vous parler.
Ok.
Moi, je pense que je vais vous faire un petit mini-kiff sur le stand-up.
Oh!
Ouais.
Bah ouais.
Oh.
Parce que c'est quand même. Bah, c'est... En fait, j'arrive pas trop à hiérarchiser les kiffs cette semaine. Mais on va dire que le mini-kiff, c'est le stand-up. En vrai, c'est un énorme kiff du moment pour moi. D'abord parce que j'avais envie de faire ça depuis environ que je suis née. Et donc, c'est bien d'y être allée pour finir vers l'âge de 30 ans. Bon, il était temps. J'en profite pour vous dire de réaliser vos rêves et de ne pas attendre, car le temps zafule. C'est un jeu de mots avec la boutique en ligne Zaful qui est signée Kalindi. Et maintenant, je peux plus dire cette expression sans dire Zaful. et oui, et le stand-up, c'est trop bien. J'ai découvert une grande de famille. Je me fais plein de copains comme Mao. Et c'est trop cool. Et ça me rappelle un peu le milieu du rap, tu vois, parce qu'on est tous là.
Lol.
Le milieu du rap que j'ai bien connu en Ardèche à l'époque.
Et moi, je te lisais dans le 20e arrondissement. Tu comprends, je sais chipper.
Dans nos cités respectives.
À Nation, c'était dur. Ligne 1, RPZ.
Non, mais c'est le côté, tu vois, on est tout en bas. Et on veut tous percer quand même, tu vois. On aimerait réussir dans ce truc. Bon, en vrai, il y a plein d'autres milieux où ça fait ça et environ tous les milieux artistiques, en fait, mais où t'as pas de chemin bien balisé pour y arriver, à part, en fait, taffer, et après, tu perces.
Vous n'êtes pas encore au point où vous tirez dans les pattes pour réussir à,
non.
À passer les autres.
On espère y arriver sans ça.
De ouf.
Ouais.
La sororité, frère.
Ouais, même la fraternité et tout.
La solidarité.
Et alors, où est-ce qu'on. Donc, tu as parlé de Comedy Love pour les lectrices et les auditeurs et les auditrices, n'est-ce pas, de Laisse-moi kiffer qui viendraient. qui écouterait, qui pourrait venir sur Paris, par exemple. Où est-ce que tu vas régulièrement?
Alors, j'officie au Jardin Sauvage. C'est là que se déroule le Comedy Love aussi.
Exactement, super scène.
Le Jardin Sauvage, ouais, c'est une péniche où il y a plein de scènes, de plateaux d'humour qui se succèdent tout au long de la semaine. Donc, je vous invite à aller voir la programmation. Et moi, j'y suis en général le dimanche à 17h, où il n'y a que des petits jeunes qui n'en veulent et qu'il n'y a quasiment pas de vrai public, en fait. C'est que nous qui venons nous entraîner, tu vois. Il y a environ une vingtaine de personnes. Et du coup, l'esprit est trop bien, tu vois. On est tous là avec la même passion.
C'est trop bien.
Et voilà. Et du coup, tu traînes qu'avec des gens marrants parce que c'est leur travail. C'est très agréable. Voilà, c'était mon mini kiff.
Et puis, tu vas venir tous les mois au One Match Show.
Oui. Je suis trop contente de venir tous les mois au One Match Show. Oui. Bah là c'est le dernier, c'est le 3 juin, je sais pas si cet épisode sera sorti, mais j'y serai pas. Mais non, cet épisode
ne sera pas sorti. Il sortira le mercredi. Mais...
Donc, le dernier One Match Show de l'année est passé.
Et en plus, il est complet. Donc, c'est dead.
De toute façon, il est complet, c'est dead. Donc, I'll be back en septembre. Of course, avec grand plaisir. Un magnifique péniche aussi. Venez donc, ça ne coûte que 5€, dis donc, c'est pas cher.
Et c'est trop marrant. Donc, vous dites que vous êtes en train de vous créer une petite bande, en fait, c'est ça?
On s'est rencontrés en plus au One Match Show.
On s'est rencontrés au One Match Show. Elle a joué au One Match Show, Mao.
Ah, t'as joué? J'étais pas là. Oui. C'était le mois d'avant, c'est ça?
C'était Sophie-Marie Laroui.
Ah oui, bah oui, j'étais
PNL
pas là.
Tout le temps. C'était un grand moment.
Ok, cool.
Et après, on s'est recroisés au Jardin Sauvage. Et comme globalement, on va tous faire les mêmes scènes ouvertes, les mêmes open mic, on se revoit. Et c'est un petit milieu, tu vois. Donc, ouais, tu te fais vite des poteaux. C'est très cool.
Ah, c'est marrant. Back in the days, donc. Moi, j'ai découvert Bérangère Krief en 2008 ou 2009, je sais plus, 2009. Et en fait, elle m'a présenté à toute sa bande de potes. C'est pareil, il y avait une... Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était dans une pizzeria qui est pas très loin du bureau, sur les boulevards, qui aujourd'hui s'appelle plus comme ça. Mais vraiment, juste à côté du bureau. Et ils se retrouvaient tous là. Et en fait, dedans, il y avait Kian, il y avait Kairon, il y avait Baptiste Le Caplin. Qui sont tous aujourd'hui devenus de Christine Béroux aussi, Anne-Sophie Girard, qui sont tous devenus des grosses restas. Donc je vous souhaite le même parcours.
Youpi.
10 piges plus tard, quoi, ils sont devenus vraiment devant, vraiment Mouse, quoi. Donc c'est trop bien. Quoi.
Et Mao, tu vas devenir Mouse.
Je l'avais même pas. Désolé. Pas fait exprès.
Trop bonne blague.
Pas si je vais percer avec ça. Hein.
Bon bah cool en tout cas.
Trop cool. Voilà, c'est trop bien. Il faut vraiment que je vienne te voir Camille. C'est...
Oh oui, tu m'as
dit. Ça m'a tout doux mais chaque fois j'ai pas l'opportunité.
Mais n'hésite pas.
Mais je vais le faire.
T'es déjà venue au One Mad Marie? Non, jamais.
Jamais. En fait moi je suis pas trop stand-up.
T'es pas trop humour.
Plateau d'humour.
J'aime pas pas rire.
Est-ce que c'est parce que ça, genre tu trouves ça, parce que je sais que Kalindi elle aime pas trop non plus et elle parce qu'elle trouve ça trop gênant en fait, elle a trop peur que les gens fassent des bides et du coup ça la met tellement mal à l'aise qu'elle peut pas rire.
Ouais, je pense qu'en fait je pourrais aller voir quelqu'un dont je sais que les blagues me font rire, tu vois. Donc comme je connais ton humour, je pense que s'il y avait un plateau dédié à Queen Camille, je foncerais. Mais en fait quand je sais pas trop à quoi m'attendre, je pense que je me dis je sais pas si je vais passer un si bon moment que ça. Et voilà. Et
en vrai, tu peux venir au One Match Show parce que de base, c'est oui, a priori des gens qu'on connaît.
C'est une programmation là-bas, vraiment.
Ouais, grave. Mais ouais, après, moi, je suis pas trop du genre à m'enfermer dans des salles. Donc en fait, c'est aussi un problème. Je veux pas trop au cinéma, je veux pas trop dans le musée, je veux pas trop dans les théâtres. Donc,
Toi, t'as besoin d'espace où tu peux courir, c'est ça
tu vois. Ouais. Mais il faut vraiment que je fasse parce que je sais que je vais trop rigoler.
Ou faut qu'on te fasse des blagues en plein air, quoi.
Mais il y en a en plus.
Bah voilà,
l'été dernier, on avait au but de Chaumont.
De ouf.
Ah, trop bien.
Voilà, ouais, c'était l'école de la vie parce que du coup, t'es dans un parc et il faut parler super fort et tout. Ah oui.
Qu'est-ce que c'était chouette.
Puis il y avait des gens qui jouaient au bolas. Enfin, bref. Le décor était compliqué.
Là, tu me vois pas très bien par contre, mais.
Il y avait des blancs avec des dreads. Non, je sais ce qu'elle est sortie avec. Bref, stop.
Ah bah, on est au courant.
T'inquiète pas, ils se sont déjà moqués de moi.
De son ex. Ils t'écoutent
toujours ou pas? Cet homme-là.
Je pense pas, mais je t'embrasse.
S'il écoute, on le salue.
Big up.
Big up. Marie, à toi?
Yes. Alors moi, mon mini-kiff, c'est ma nouvelle paire de lunettes de soleil. Yes.
Ok.
Voilà.
Où est-elle?
Eh ben, figure-toi qu'elle est chez moi, dans ma valise, que j'ai pas encore défaite parce que je reviens le week-end. Okay. En fait, c'est mon kiff parce que en fait, j'ai jamais aimé les lunettes de soleil. Et c'est un truc qui me va pas, je trouve. En fait, j'ai eu des Ray-Ban quand j'ai eu 16 ans, que j'ai dit à ma maman, je veux des Ray-Ban pour mon anniversaire. Mais en fait, je les aimais pas tant que ça. Donc en fait, je les ai achetés, je les ai mises deux fois. Et je les ai toujours, mais en fait, c'est pas un accessoire qui me met en valeur, je trouve. Autant j'aime bien ma tête avec les chapeaux. Donc je trouve que j'ai une tête à chapeau, casquette, petit béret et tout, j'adore. Mais les lunettes de soleil, je fais un rejet. Et du coup, à chaque fois qu'on me dit « Ah, mais il fait trop beau, mets tes lunettes de soleil », je me sens un peu offensée, quoi. Et du coup, je trouve pas de modèle qui me plaît.
Je me sens offensée. Parle-moi bien.
Ok, t'arrêtes. Je suis pas obligée de mettre des lunettes de soleil si t'as pas envie, d'accord. Du coup, j'ai jamais acheté de lunettes de soleil. Et il y a quelques semaines, on a été à une présentation presse avec l'équipe QG de la Hype, donc en fait le département mode beauté de Mademoiselle. Ça se passait dans une agence de presse. Et en fait, en partant, la demoiselle qui nous avait accueillis nous a gentiment proposé en fait de repartir avec des lunettes de soleil. Et donc il y avait tout un portant avec un choix multiple, varié. Je me suis dit, je vais, par politesse, essayer des modèles et lui dire que non, merci, ça me va pas. Et en fait, j'ai trouvé un modèle que je trouve assez cool, qui est assez classique, parce que moi, je suis de style assez classique, intemporel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois un peu ma garde-robe, et du coup, mes lunettes de soleil, je les voulais comme ça. Exactement, c'est la photo qui a
fait vous le mettra dans
mon compte Instagram. Donc voilà, je les ai portées tout le week-end à Venise. Et en fait, elles sont assez simples parce que ça reste des lunettes de soleil en forme d'amande, un petit peu tirées sur les coins des yeux, motif un peu écaille. Donc en fait, rien de foufou, mais en fait, rien que le fait de me dire, ok, j'ai trouvé ma petite paire de soleil, je les aime bien, je les ai mis tout le week-end, et je suis très très heureuse et ça me fait dire que il faut tenter aussi des choses vestimentaires, de look, sortir de sa zone de confort et puis je me suis kiffée tout le week-end avec ça, donc
trop bien.
C'est cool.
Et t'as pas mal aux yeux quand
Non, pas du tout. Okay. J'ai pas. J'ai remarqué que en mettant mes lunettes de soleil tout le week-end, c'était vachement agréable. Dis donc, parce qu'il a fait beau et quand je les enlevais, j'étais pas bien. Je me disais, ah ouais, c'est.
C'est lumineux.
C'est lumineux, ouais. Donc en plus, c'est des lunettes de soleil qui sont assez quali, qui protègent vraiment les yeux des rayons UV. Donc elles sont pas adaptées à ma vue parce que moi, je suis censée mettre des lunettes de vue, mais comme j'aime pas les lunettes tout court, je les mets quasiment jamais.
Donc là, t'as pas de lentilles, tu mets pas de lentilles.
Non.
Et tu vois, donc tu.
Je vois plutôt bien, mais.
Je vois ce qu'il faut voir.
Un détail à 50 mètres, je le vois pas très très bien, tu vois.
Ok.
Donc c'est vraiment une chouette paire de lunettes que je suis contente d'avoir. Un accessoire que j'ai adopté.
Waouh.
Voilà.
Je me suis fait opérer de la myopie, moi.
Ok.
Et depuis.
Pardon.
Rien à voir, mais en fait, avant, j'arrive plus du tout de ce fait-là à supporter le soleil depuis que je me suis fait opérer. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent, peut-être ils pourront dire dans les commentaires.
Est-ce que c'est sensible?
Moi, en tout cas, oui, okay. Beaucoup, énormément. Donc, je peux plus faire sans mes lunettes de soleil. Dès que j'ai pas mes lunettes de soleil, je décède.
Tu les as souvent sur la tête quand tu sors, je vois.
Moi, s'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient bien me prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, s'il vous plaît, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il faut que je rachète des lentilles. Et que
t'as
je reconnais personne de loin. Non, là, du coup, je suis comme Marie, je porte pas alors que je devrais.
Ouais.
T'es myope
quand on voit pas de loin.
Ouais.
Ouais.
C'est moi, c'est une chute.
Voilà. Donc beaucoup, pour la vie, ça va, tu vois, mais juste là, je sais que je vais rentrer dans ma ville d'origine. Donc je suis plus à même de croiser des gens que je connais dans la rue, mais je vais pas les reconnaître pour autant, tu vois. Donc ils vont penser que je suis snob, mais c'est pas grave.
C'est dit, c'est peut-être une bonne façon de pas.
De ignorer les gens, oui.
De pas voir des gens que t'as pas envie de voir.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai. Oui.
Donc, est-ce que tu veux qu'on te. T'as une préférence en termes d'arrondissement
Ouais, si vous pouvez me trouver ça entre midi et 2 dans le 10e, ça m'arrange.
Envoyez un message à DM à Queen Camille. Il y a peut-être des ophtalmos.
Oui, envoyez un mail à une vue pour Queen Camille, @mademoiselle.com.
Queen Camille.
Offrez des lunettes.
Merci.
Voilà.
Bon, cool. Merci beaucoup.
De rien. C'était
trop
simple
bien.
Et efficace.
Mao, c'est à toi.
Eh ben écoute, moi comme Queen Camille, si quelqu'un m'écoute et quelqu'un voulait bien faire mes courses, donc j'habite dans le 6e arrondissement, de préférence le soir, si on pouvait baiser après, c'est la meuf qui part en couille.
Ah oui.
Alors, c'est laisse-moi kiffer. Alors bon, petit kiff. C'est différent des lunettes, c'est une salle, 2 ambiances. Alors moi, c'est laisse-moi kiffer, mais européenne. Voilà, il y avait 10% de personnes qui ont voté en plus, et moi je suis très heureuse, parce que comparativement, il y a 60% de personnes qui votent pour les présidentielles, donc c'est très beau. C'est du putain, je suis dans.
Tu sais pas, Mao, que normalement ici on donne que la moitié des infos, oui. T'arrives avec des chiffres très précis, les gens vont être perdus.
Alors. Écoute cette suite de phrases. Ce chiffre est incombé au réveil des jeunes qui ont voté vert et aux récentes manifestations. Donc voilà, bravo à tout le monde. pas bravo pour le FN.
Non, pas bravo.
Voilà. Sauf qu'en fait, moi, comme j'étais militante un jour et que
Un jour seulement.
Oui, écoute, ça durait un an, c'est douloureux parce que j'ai cru au modem. Voilà, je suis un Pokémon rare, je fais partie de ces gens qui ont voté Bérou un jour dans leur vie. Donc moi, il y a 5 ans, je collais des affiches avec marqué attendez, faites l'Europe, pas la guerre. Voilà, wow. On sait pourquoi on a perdu, du coup. Et le FN a fait 25%. Du coup, j'avais pas trop de sensations. Moi, j'avais déjà eu le cœur brisé il y a 5 ans. voilà, et j'ai envie de revenir sur un moment d'anthologie. On est dimanche soir, les résultats sont là. On est sur TF1, il est 20h40. Il y a Gilles Boulot et Anne Lorcoudray qui parlent des résultats. Il y a Gilbert Collard qui est député FN et avocat nul. Par ailleurs, voilà, je l'ai dit, c'est mon moment. Et Daniel Cohn-Bendit qui est invité. J'aimerais vous faire écouter le passage, mais je peux pas, j'ai pas réussi.
On vous mettra le lien dans.
Voilà, et je vais vous mimer. Donc en gros, voilà, place à l'imagination. Donc il y a Anne-Laure Coudray qui dit bonjour, Monsieur Collard. Bonjour. Ça va? Il dit. Non, pas du tout. Il y a plein d'émissaires de Macron ici. Il y en a un là. Et puis là, il y a Cohn-Bendit. Et là, Cohn-Bendit, tu fais quoi? Pourquoi tu dis ça? L'autre, tu dis t'es un traître. L'autre, tu fais connard. Et là, les deux, ils commencent genre à s'engueuler, genre wham avec mes ex, tu vois. Et ça part tellement loin que Gilles Boulot, il commence à devenir tellement fou qu'il hurle à la régie. Coupez leur micro, c'est insupportable. Voilà.
Une fois hier soir sur France 2, mais franchement, ce n'est rien à côté des pathétiques insultes que se sont envoyées à la figure Daniel Cohn-Bendit et Gilbert Collard.
C'est Jean-Jacques Bourdin d'abord.
Un
bien beau débat démocratique. Ah oui, on sent bien la démocratie.
Connard !
Putain, c'était...
Exactement. Il y avait de la passion.
Non, mais c'est super. Bah, quand on te donne comme ça un espace d'antenne nationale pour t'exprimer, je pense que c'est tout à fait
le moment d'avoir une thérapie collective. Mais complètement, de faire valoir tes colères.
Super.
Non, c'était amour, gloire et corruption. Moi, j'ai adoré ce moment. et après, je me suis endormie et j'ai eu des rêves. Et en gros, genre dans mon rêve, tu vois, il faisait « Connard, traître !» Après, il se faisait grave des bisous. Après, dans mon rêve, il y avait un mec qui sortait de nulle part de la régie avec un drapeau LGBT qui fait « Embrassez-vous tous !» Ensuite, il y avait Anne-Laure Coudray qui faisait genre Mao, je t'ai vu travailler à LCI, j'adore comment tu tapes sur ton ordinateur. Et moi, je faisais genre, c'est vrai. Et elle me répondait pas, je me suis réveillée à ce moment-là. Oh. Voilà, c'était mon petit kiff du mois.
Du mois, carrément.
Bah oui, j'ai pas vécu. Ah si, j'ai vécu plein de trucs en plus ce mois-ci. C'est une autre conversation.
En off. On en parlera peut-être au moment de ton gros kiff.
Oh là.
Ça la laisse pensive.
Bon bah cool.
Pourquoi tu as kiffé cette chose inaudible?
Mais j'ai trouvé ça trop drôle. J'ai rien d'autre à dire, c'était trop drôle, c'était jouissif, c'était rigolo, c'était... Non, j'ai pas d'autre argument, les gars. C'est un moment hors norme.
Je vais faire un peu mon vieux con, mais je trouve que ce genre de moment-là, avant, à la télé, il y en avait plein. Il y avait notamment une émission avec Michel Pollack où c'était le samedi soir, ils s'engueulaient dessus, c'était génial. Franchement, ça se gueulait, ils s'insultaient, etc. Alors, très masculinité toxique.
J'allais dire, oui.
Très, très fucked up en termes de masculinité toxique. Mais en attendant, il y avait quand même des débats d'idées, débats d'opinions, etc. Aujourd'hui, je trouve que dès qu'il y a le moindre petit truc qui sort un petit peu de la norme, on a tous tendance à faire « Oh mon Dieu, ils sont tous en train de se gueuler dessus. »
La télé, c'est complètement aseptisée, je suis grave d'accord avec toi.
Ah, voilà.
D'ailleurs, l'île de la tentation...
T'es un peu trop jeune, quoi. Moi, j'ai le droit d'être un vieux con, hein, parce que ça y est, j'ai passé 40 ans, t'étais trop jeune.
Non, moi, je rêve de l'époque où tout le monde en parle, où tout le monde était coqué.
Parle bien dans ton mic.
Moi, je rêve que tout le monde était coqué comme dans Tout le monde en parle. Je suis contente d'avoir parlé de mon micro pour dire ça. Enfin, bon, bref. J'allais juste dire que je sais pas si vous avez regardé la nouvelle j'ai un coming out à faire la nouvelle saison de L'île de la Tentation.
Non,
j'avoue, mais j'ai regardé deux épisodes.
Yes, je te veux dans mon
les
équipe.
Deux premiers, mais après j'ai plus eu le temps.
Et tu vois, je trouve ça nul, c'est hyper mal monté, c'est hyper chiant. Aseptisé, genre il y en a un qui touche l'épaule de l'autre et la meuf elle fait je savais que je pouvais pas lui faire confiance.
Calm down, en 2019.
Moi, c'est au bout de 8 fois qu'on me trompe que je commence à me dire je savais que je devais lui faire confiance.
T'es peut-être un petit peu dans l'extrême aussi.
Queen Camille va me donner des conseils.
Peut-être que ce sera l'objet de mon gros kiff.
Le truc de L'île de la Tentation, c'est que je pense que les premières saisons, elles étaient, enfin en tout cas la première et la deuxième, elles étaient cool parce que les gens ils venaient, ils savaient pas trop où ils foutaient les pieds. Là aujourd'hui ils savent très bien comment marchent les trucs du drama, etc. Donc ils viennent plutôt pour jouer un truc que pour vivre l'aventure, non?
Ça manque d'authenticité, ouais.
Mais je pense que c'est aussi une ligne éditoriale parce que je me suis renseignée les précédentes éditions question. J'ai vraiment j'ai que ça à foutre dans ma vie. Hein. Je suis humoriste. J'ai que ça à foutre. C'est interdit au moins de 16 ans il y a 10 ans. Et maintenant, c'est au moins de 10 ans. Donc ça se voit qu'il y a eu un choix qui a été fait sur la manière dont c'est monté.
Oui, il y avait des petits moments de scène chaude. Il n'y avait pas Brenda et Brandon.
Si.
Oui, il prenait son bâton. Et il allait,
il voulait
avait un grand bâton et il voulait aller démonter l'autre sur l'autre île et il disait donnez-moi mon bâton. C'est tout ce dont je me rappelle. Nous regarder ça en cachette avec ma sœur parce qu'on n'avait pas le droit, c'était bien trop vulgaire, tu vois. Et on se relevait la nuit chez ma grand-mère pour aller voir ça et boire des canettes de Jimmy.
C'était presque comme un film érotique, tu vois. Tu te levais.
Le film érotique du dimanche soir.
Ouais.
C'est ça.
C'est ça. Ouais.
Sur M6.
C'était ouf.
Le soft porn des Français.
Grave. Des Français de 12 ans.
De la classe moyenne, pardon.
Bisous à tous les pauvres.
Nous sommes aussi
odieux, les classicistes, misandres.
On t'adore. Reviens quand tu veux.
Fallait pas l'inviter.
T'es en plein dans les lignitos de mademoiselle.
What is your mini kiff, Fat Flo?
Alors moi, mon mini kiff, c'est une série dont je voudrais vous parler, qui s'appelle Tchernobyl, et dont j'ai découvert en fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une mini série. Je pense que moitié des infos, mais je pense que c'est en 5 ou 6 épisodes, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment une toute petite série comme HBO en fait très régulièrement. Ça passe donc sur HBO et ça passe en France. Vous n'êtes pas obligé d'appeler votre cousin américain,
celui qui vous envoie les DVD d'habitude,
pour qu'il vous envoie les DVD, parce que ça passe légalement en France sur OCS. Donc il faut payer OCS, certes, mais si vous payez OCS,
désolé classe moyenne.
Alors, ceci dit, si t'achètes OCS, après, tu peux vraiment, t'es gavé, t'as vraiment toutes les séries HBO, même les vieilles. Donc, tu peux vraiment être, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. J'hésite à me relancer dans un rewatch des Sopranos. Cette saison, avec énormément d'épisodes à chaque fois. Enfin, t'en as pour des heures de rigolade. Pas trop de rigolade. Et Tchernobyl, c'est justement pas trop la rigolade non plus, parce que c'est l'histoire vraie de cette fameuse centrale nucléaire qui a explosé au milieu des années 80 en URSS. Et l'un des trucs que j'adore aussi dans cette série, c'est que, comme apparemment de plus en plus de podcasts, c'est ils sortent un podcast avec la série. Et donc, il y a un épisode avec le créateur, le showrunner de la série, qui vient expliquer pourquoi il a fait ça, etc. Et c'est assez génial et en même temps flippant, parce que le mec s'est vraiment renseigné et c'est relativement apparemment réel, c'est-à-dire ça fonctionne bien avec la réalité apparemment, puisque le truc explose à 1h20 du matin, n'est-ce pas, et ils décident de faire en sorte de tout couvrir, de couvrir le secret pendant des heures et des heures et des heures. Et donc pendant ce temps-là, donc il faut savoir que la particularité de Tchernobyl, c'est que c'est le cœur du réacteur qui a explosé. Donc c'est la première fois que ça arrive. Normalement, c'est pas censé exploser un cœur de réacteur nucléaire. C'est la première fois que ça arrive et donc ils savent pas comment faire. Et donc t'as toutes les radiations qui sortent, qui sont en plein jour comme ça, qui dégagent avec la fameuse fumée, etc. Et le premier épisode, je vous spoil pas trop, parce qu'en vrai, le premier épisode, c'est les gars qui se rendent compte que le truc a explosé et qui vont donc voir, tiens, c'est quoi exactement l'étendue des dégâts, et qui vont, parce qu'ils sont juste dans une petite blouse d'infirmier, eux ils bossent comme ça, ils ont pas de protection, rien du tout, ils vont vraiment voir le cœur nucléaire pour dire, ah bah oui, effectivement, ça va Camille ?
J'ai un problème d'œil.
Elle est émue.
C'est l'émotion.
Tu pleures, c'est parce que c'est Tchernobyl ?
Non, c'est parce que j'ai mis mon doigt sale dans mon œil. Et maintenant, ça pique. Mais une fois que ça pique, tu peux plus regratter avec ton doigt sale. Donc, je laisse pleurer. Et j'éponge au fur et à mesure avec un sopalin. Je t'en prie, continue.
Je vois bien. Quand on était petit, en sixième, on jouait avec des piments. J'avais un pote qui avait ramené des piments. Et donc, on jouait à manger des piments. Et après, on se frottait les yeux parce qu'on pleurait. Et donc, on pleurait encore plus parce qu'on se frottait les yeux. C'était idiot.
Non, mais tout va bien.
Masculinité toxique totale. Et bref, en tout cas, voilà, cette mini-série est complètement folle. Pour l'instant, je n'ai vu que 3 épisodes, il m'en reste encore 2, mais j'ai tellement hâte. Okay. Et surtout, je trouve que la plus-value, si vous avez aimé et que vous voulez voir un petit peu, aller un peu plus loin, il y a ce podcast qui est vraiment trop bien. Bon, bien sûr, c'est en anglais, donc désolé si vous parlez pas la langue de Shakespeare. Mais c'est vraiment assez fabuleux. Je vous spoil pas après, parce qu'en fait, c'est fou de voir à quel point le régime communiste de l'époque est complètement fucked up. Et surtout, je pense qu'ils ont un vrai truc en ce moment aux États-Unis avec les fake news et avec, en gros, l'État qui raconte n'importe quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils prennent comme exemple l'URSS. Alors que les États-Unis, à l'époque, qui sont complètement en guerre contre l'URSS, en guerre froide en tout cas. Et en fait, en gros, le mec, il dit aujourd'hui, moi, j'ai voulu parler de ce truc-là pour montrer à quel point l'État peut raconter n'importe quoi quand il y a aux citoyens et au peuple. Et c'est des sujets qui nous touchent, nous, beaucoup en ce moment aux États-Unis, quoi. Ils sont assez sensibles sur tout ce qui est fake news d'une manière générale.
Mais. Donc, ouais, vas-y.
Non, voilà. Je voulais vous inciter à regarder cette série si vous voulez passer. Si vous êtes hypochondriaque.
Ah oui.
Faut pas regarder parce que c'est pas très rassurant d'une manière générale ce qu'ils expliquent.
Mais attends, explique. Est-ce que ça spoile si t'expliques. Ça spoile. Si t'expliques comment exactement ils comptaient cacher le truc, parce que j'imagine que ça a fait un peu de fumée quand même cette histoire.
Oui, alors ils partent du
principe. Ils ont mis une couverture. Pendant... on va prendre un grand éventail.
Pendant très très longtemps, donc pendant plusieurs dizaines d'heures en fait, parce que si je me souviens bien, ils décident d'évacuer la ville le lendemain matin. Donc pendant 24 heures, en fait, le truc il est ouvert comme ça, il y va. Et en fait, les gens ils sont à. Il y a une ville qui s'appelle Priyat qui est juste à côté, qui est à 3 bornes. Et bah, les gens ils sont tous malades, quoi, assez rapidement, vraiment. Et puis ils font en sorte de dire d'abord que c'est un incendie sur le toit. Et qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. Et en fait, quand t'as un mec qui dit bah, il y a un pompier qui a ramassé un bout de graphite. Par terre et qu'en fait il l'a tenu et après sa main elle s'est limite liquéfiée quoi. Oui parce que c'est du graphite. Alors pour le coup le graphite c'est le truc qui est le plus en contact avec avec le cœur. Je ne savais pas mais
décompose de l'intérieur vivant quand t'es irradié.
Ah c'est cool.
oui ils expliquent tout ça très bien aussi ce que ça fait les radiations nucléaires etc. C'est plutôt bien foutu didactiquement puisque je trouve que c'est le genre de série où il y a ils arrivent à foutre dans les dialogues des explications sur comment ça marche bien. Notamment, qui c'est qui fait ça très bien? C'est Aaron Sorkin, d'une manière générale, dans toutes ces séries. Vous avez vu ou pas?
Non.
The West Wing. Non. The West Wing ou The Newsroom. Je vous invite aussi à regarder The Newsroom, où le mec trouve toujours des très bonnes façons d'expliquer dans les dialogues pour que ça fasse très naturel aux spectateurs comment ça marche.
Ça devient pas c'est pas sorcier d'un coup. Tu
exactement.
Vois. Pose dans l'action, je vais te faire un schéma.
Et c'est un peu pareil là, c'est plutôt bien fichu quoi.
Mais du coup, c'est une série qui se rapproche au plus de la réalité. C'est pas une fiction qu'il y a autour et
non.
Dans lesquelles. De... Ok.
C'est en tout vraiment... cas, pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu des 3 premiers épisodes, c'est très en rapport avec ce qui s'est passé à ce moment-là quoi.
Ok. Cool.
Voilà. Et c'est tendu. Voilà.
J'ai tellement hâte de faire le jingle des gros kiffs.
Pourquoi?
Bah maintenant que je me suis découvert un talent pour le beatbox, je compte bien l'exploiter.
On y va alors?
Non, je rigole.
Est-ce que tu veux encore?
Ouais, je coule des yeux.
Tu veux encore décéder ou pas des yeux?
Ouais, non, mais ça va.
Tu peux nous parler, Camille, tu sais.
Non, mais je préfère garder tout ça pour moi. Rassurez-vous, mes fans, ce n'est qu'une petite coulure d'œil.
Titre. On y va?
Allez.
Allez, qui c'est qui fait le jingle? Marie.
Non, pourquoi tout le monde regarde?
Vas-y, je te sens, t'es chaude, Marie. Okay. La fois passée, t'as fait un jingle extrêmement qualitatif.
Gros kiff de Camille.
Oh my god!
Mais quel talent!
Ouais, je sais.
Tu reviens quand tu veux.
Je montrerai tous les soirs.
Fête foraine humaine.
Fête foraine humaine.
Prenez incroyable. Ah, ça y est, c'est déjà mon gros kiff.
Bah oui, on va essayer de le faire dans ce sens-là.
Ah ouais, d'accord. Alors, tu voulais des petits conseils love, Mao?
Bah oui, tu connais un peu les dramas de la vie amoureuse.
Mais je.
Qui sont pas finis en plus. C'est passé encore un temps de situation depuis que je t'ai vu ce midi.
Ah.
Mais peut-il y avoir une vie amoureuse sans drama?
Ah.
Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que oui.
Ah ouais?
Oh,
ben oui.
Qu'est-ce qui se passe,
Camille? Tout est possible. Hein.
C'est pas l'ennui.
Oui, j'ai décidé d'arrêter le drama. C'est le synonyme de l'ennui. Non, pas du tout. C'est pour toi, la vie va commencer, Mao. Parce que tout le temps que tu vas gagner à ne pas faire du drama, à ne pas donner de l'énergie dans le drama, parce que je suis sûre que bien souvent tu n'es pas à l'origine de ce drama.
C'est toujours la faute des
autres. Tu le subis, mais évidemment.
Mais c'est comme souvent. Ah, c'est jamais de son propre fait.
Eh bien, tout ce temps gagné, tu vas pouvoir le réinvestir dans la joie de vivre et tes passions.
Dans le travail. C'est le travail, ouais.
Le travail.
Sarkozyste.
Non, alors mon gros kiff en ce moment, c'est une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Matthew Hussey, dont on vous mettra les liens, évidemment, en note de ce podcast. Et son travail, c'est d'être un love coach. Mmh. Donc, il est encore plus haut que moi, tu vois, le gars. C'est devenu mon maître depuis que je me suis abonnée à cette chaîne, d'ailleurs. Et donc, il donne plein de conseils de dating très ciblés, femmes, hétéros. C'est genre son cœur de cible, mais en fait les conseils qu'il donne s'appliquent à globalement toute personne humaine, parce que c'est des conseils autour de l'attraction, de la séduction, de comment pas faire flipper quelqu'un pour pas qu'il parte en courant, comment récupérer ton ex. Enfin, c'est vraiment des trucs qui sont indépendants du genre, qui sont juste des mécanismes humains. Et aujourd'hui, je voulais vous parler en particulier de, du coup, mon gros kiff du moment. Donc, si vous voulez, mon gros kiff latent permanent, c'est toujours l'amour, chercher l'amour, oh oui, coucher avec des nouveaux gens.
Est-ce que chercher l'amour, c'est kiffer? Est-ce que forcément chercher l'amour, c'est coucher avec des nouveaux gens?
Bah, il y a un moment donné, faut les caster.
C'est vrai.
Tu vois? Non, puis voilà, moi, c'est aussi pour
elle
le travail.
Naturel dans mes vies amoureuses.
C'est pour le travail. Alors, elle la désélectionne.
Mais justement, mais tout mon gros kiff part de là. C'est la sélection. Comment sélectionner un bon partenaire et s'éviter un maximum de drama et de perte de temps avec des cons qui sont, je vous le rappelle, très nombreux.
Ils sont partout, ils sévissent partout.
Ils sont partout, on ne peut pas les éviter. Mais on peut les dégager de notre vie à temps. Et ça, c'est le message de Mathieu. Et c'est le message de paix que je suis venue vous apporter aujourd'hui. Alors, comment dégager les cons? En deux étapes.
En plus, c'est très court.
Non, mais en réalité, Mathieu, il t'apprend que... Enfin, il t'apprend. Il te fait réaliser. Parce qu'il a beaucoup de concepts comme ça qui, finalement, ont rien de révolutionnaire, mais qui te remettent un peu dans l'ordre des idées que t'avais déjà en tête, mais que tu savais pas trop mettre des mots dessus, tu vois. Et là, Mathieu, il a vraiment mis des mots sur mes sentiments. Et donc, non, mais en gros, le message, une partie de son message, c'est, en fait, arrêter de juger les gens au romantisme de la situation. Ça, c'est toute la pop culture qui nous berce de « Ah, les points communs, ah, mais je retrouverai jamais quelqu'un qui aime la New Wave de 82, tu vois, des trucs hyper précis. » Mais en fait, le fait qu'il aime la New Wave de 82 n'en fait pas forcément un bon partenaire,
ça, c'est sûr,
tu vois. Donc, Mathieu, il te fait réaliser que, bon, c'est très bien d'avoir des connexions et des passions communes avec des gens, ça n'est pas suffisant. Et la deuxième chose sur laquelle tu devrais arrêter de te baser, c'est de juger les gens à leurs paroles et d'essayer d'interpréter
les actes.
Les actes et les paroles. Enfin, d'interpréter en tout cas. Et justement, oui, c'est ce que tu voulais dire, oui, de te fier aux actes.
Oui, plutôt qu'aux paroles.
À ce qui est réel. Et moi, on a commencé un nouveau format sur la chaîne YouTube. Il y a un premier épisode qui est sorti avec ma femme, Kalindi, que vous connaissez bien ici, où on ouvre les courriers du cœur des mademoiselles. Et donc, il y a plein de gens qui m'envoient leurs questions amour. Et dans les mails, c'est souvent, alors il m'a dit ça, mais du coup, est-ce que je dois penser que, parce que, machin. Et donc maintenant, je réponds systématiquement. Tiens, et si tu arrêtais de perdre du temps à interpréter les paroles floues de quelqu'un qui, au bout du compte, ne te donne pas ce que tu souhaites, et que tu t'intéressais plutôt à ses actions et à ce que tu ressens toi-même? Puisque bien souvent, c'est légitime, en fait, si tu as l'impression qu'on te parle pas assez bien, c'est sûrement qu'on te parle pas assez bien. Si tu as l'impression qu'on te considère pas assez, c'est sûrement qu'on te considère pas assez. Enfin, en général, quand c'est pas le cas, la question se pose pas, donc c'est un indice. Et du coup, bah ouais, jugez les gens à leurs actes, les gars, et vous allez gagner un temps fou. Qu'est-ce qui nous retient de faire ça? Parce qu'en réalité...
On a envie de croire qu'ils nous aiment bien, on a envie de...
Bah ouais, mais attends, il y a tellement d'autres gens sur Terre.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hein? Hein? J'ai pas les chiffres, mais il y en a quand même beaucoup.
Bah, il y en a beaucoup.
Je pense qu'on a peur, tu vois, surtout d'être tout seul, de jamais retrouver quelqu'un qui aime la New Wave de 82, de jamais mériter mieux que ce connard qui te parle un peu mal, tu vois. Donc la peur est souvent très mauvaise conseillère dans tous les domaines de la vie, d'ailleurs.
Ça.
Et du coup, n'ayez pas peur, mes petits chats. Il y a vraiment beaucoup de gens et vous méritez beaucoup d'amour. Donc triez vite les connards, ça vous fera gagner du temps pour passer plus de temps avec les gens sympas. Youpi. Et on avait un débat tout à l'heure avec une collègue que je ne citerai pas. je sais plus. C'était pendant la pause tout à l'heure, on se disait « Ah, mais c'est relou, j'attire quand même tous ces connards malgré le fait que je suis super, c'est pas ça que je cherche, j'ai des objectifs clairs et tout. » Mais oui, en fait, tu peux pas passer. C'est, comme on le disait, très dur d'éviter les cons. Donc, tu vas forcément en attirer certains. Mmh. Après, à toi de hop les dégager très vite.
Clair. Faire le filtre.
Ouais. Et moi, plus t'as un bon filtre, meilleure sera ta vie.
Alors, j'applique ça dans le recrutement, par exemple.
Bah, bonne idée.
Mais en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que le recrutement, c'est un casting aussi. Et en fait, je pense que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est un...
Attends, non. Là, t'as dit quand il n'y a pas de doute.
Non, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que dès que t'as un doute, en fait, c'est que tout simplement, c'est pas la bonne personne.
Ah oui.
Ah, il n'y a pas de doute que c'est pas la bonne personne.
Voilà, voilà.
C'est un vrai bon. Bon, en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'arrêter de faire des erreurs de recrutement. Après, ça ne veut pas dire que les personnes n'étaient pas bien, mais juste pas bien pour ce que je voulais faire moi avec elles. Et donc, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je pense que ça marche aussi très bien dans les relations amoureuses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à avoir des doutes sur c'est que c'est déjà en train de partir en couille et donc il faut passer next, tu vois, tout simplement, au suivant.
Et malheureusement, on a tendance bien souvent à ignorer ces drapeaux rouges.
Ah bah oui.
Par peur de la solitude, de trucs. Donc voilà, n'ayez pas peur, donnez-vous un maximum d'amour, comme ça vous n'aurez pas trop besoin d'aller en chercher à l'extérieur auprès de gens qui ne vous en donnent pas.
Bah c'est vrai en plus, enfin, c'est vrai, plus tu t'aimes, plus tu es entouré de gens qui sont bien pour toi, moins tu vas avoir besoin d'attirer l'attention de bolos en fait.
Tout à fait.
Parce que vraiment, si tu es bien dans tes pompes et que tu n'as pas besoin de te prouver quoi que ce soit, a priori tu ne vas pas trop tomber sur des connards, enfin en tout cas tu vas vite te dire « attends mais il est con lui, wesh, je
Ouais. Tu veux dire d'avoir la validation de,
ouais, de quelqu'un,
d'autres personnes.
Ouais,
c'est important d'avoir la validation des autres gens.
Mais sur... Ouais, vas-y.
Non, je vais dire merci.
Mais de quand tu parlais, je pensais au mec avec qui j'ai ouais, ouais, je me disais, t'as raison, il n'y a aucune action. Moi, je suis un peu de genre, c'est vrai, il y a plein de doutes. Pas de... Mais j'ai juste. Mais par exemple, le truc, c'est que tu vois, là, je me dis, s'il m'appelle ce soir, je sais que je vais avoir les guilis dans le ventre.
Ouais.
L'amour, comment je fais pour ignorer ça? Comment tu fais quand t'es un peu amoureuse, quoi?
Mais est-ce que ton souhait, c'est de l'oublier, cette personne?
Je sais pas où je vais, Camille.
C'est, bah, c'est ça, mais il faut en fait d'abord avoir une intention.
Faut visualiser, ouais.
Tu disais, bah oui, je
prends une décision,
j'ai décidé que c'était un con et je veux passer à autre chose. Bah, après,
je sais que c'est un con, mais est-ce que je veux passer à autre chose?
Mais oui, tu veux passer à autre chose, Maro, t'es si formidable.
Bah, si c'est un con.
On en parle tous ensemble.
Pas de temps à perdre.
Je vais ressortir en tant que nouvelle femme.
Il y en a un qui va pas pécho ce soir.
Ouais.
Le pauvre.
Donc, s'il t'appelle ce soir, tu te rappelleras qu'il a juste besoin d'attention, qu'il avait rien d'autre à faire et qu'il s'ennuyait.
C'est pas une excuse.
Qu'il s'est dit Mao, elle répond tout le temps.
Faut que je te parle. Ah, mais faut vraiment le bloquer, hein, lui.
Ah ouais, je bloque.
Ouais. Bah oui, carrément.
Ah, si tu m'entends.
Regarde, pour Marie, il n'y a pas de doute.
Ah ouais, franchement. Okay.
Et Marie, je peux te dire qu'elle maîtrise très bien ce processus parce qu'elle a trouvé le meilleur mec.
Oh. Non, mais en fait, j'ai toujours eu un peu de chance sur les mecs que j'ai fréquentés.
Est-ce que c'est de la chance ou...
Bah, je sais pas.
On la provoque.
Tu sais que t'as vite dégagé les bolos.
Ouais, en fait, j'ai
t'as pas
les bolos qui viennent vers moi. Parce que moi, je pense que je suis assez fermée si je sens que j'ai pas envie.
Que c'est un bolos.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, mon ex était vraiment un gars bien. Bon, bah, c'est terminé. Mon mec actuel est vraiment un gars bien. Et je sais pas, j'ai de la chance, je pense. Mais effectivement, c'est peut-être un filtre que je mets.
T'as peut-être pas besoin de cette validation.
Bah, quand même un peu.
Mais
tu
un
vois.
Petit peu. Ouais,
quand même.
Mais de
c'est
zéro,
plaisir, tu
de
vois.
De 0 à 100.
Oui, c'est clair. Enfin, moins, quoi.
Mais je suis d'accord que t'as tout le monde a besoin d'amour, quoi. Tu vois, mais.
Tous. On a tous besoin d'amour.
Bah oui, on a tous besoin d'amour. Moi, j'adore l'amour.
Enfin, j'adore l'amour.
Amour, non, mais vraiment. Je suis une grande romantique, tu vois, donc. Mais ça veut pas dire que je vais laisser tous les mecs du monde me bolos, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est pas incompatible, tu vois.
C'est ça.
Tu peux être ultra romantique, fleur bleue, voilà, attendre chaque anniversaire du mois comme le Messi, et en même temps dire, non, mais lui, il m'a bolos, même pas je le regarde, quoi. Donc, ouais. Effectivement.
T'as une carrière potentielle de love coach, hein, faut le savoir.
Ouais.
non, je sais pas. Donc, quand tu le sens pas, vas-y pas.
Voilà. Voilà, j'espère que ça vous servira. Allez voir cette chaîne.
C'était, en tout cas, apparemment, ça a aidé Mao.
Mais c'est que du bon sens, hein, ouais, de toute façon. Il y a sûrement des réponses à vos questions.
Mais c'est comme sur ce que tu fais chaîne. Sur ta chaîne.
Et sinon,
c'est
voilà, bon si vous parlez pas anglais, ouais, sur ma chaîne, qui est mieux. En plus,
elle reprend les contenus, elle les masterise et ils sont mieux.
Tu parles plutôt de cul, ceci dit, moins de...
Eh ben, un peu ça de love venir, maintenant, ouais, qu'on a, ouais, le courrier du cœur, donc n'hésitez pas si vous avez une petite question, queencamille@mademoiselle.com.
Oh là là, quel talent. Marie ?
Oui, ok.
De quoi tu veux parler ?
Moi, mon gros kiff, c'est d'apprendre à faire de la moto.
Ah, bravo !
Vroom, vroom, vroom. Vous l'avez, la mobilette. Ouais, c'est ça.
Petite 103, tranquille.
Oh, pour l'instant, je ne maîtrise pas tous les modèles. Écoute, moi, j'ai commencé à passer mon permis moto il y a 2 semaines et demie. Je me suis inscrite officiellement le 11 mai, la veille de mes 27 ans, symboliquement, pour me dire.
Ça faisait longtemps que tu avais envie de faire,
ouais,
ça.
Ouais, ça faisait longtemps. En fait, ça fait depuis toujours que j'aime bien la moto, que j'en fais régulièrement avec mon copain, du coup, depuis 1 an et demi, et que je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas moi ? Et le temps que je mette un peu tout de côté, parce que c'est quand même un petit billet, que je trouve une auto-école qui me convienne, et puis que je sois un peu focus sur ça, ouais, ça m'a pris bien 6-8 mois. Et donc là, ça y est, j'ai commencé, donc c'est trop cool.
Bravo, félicitations.
Bah merci beaucoup, c'est pas encore gagné, parce que je suis en train d'apprendre, mais je suis pas encore en train de passer vraiment le permis, parce que en fait, c'est compliqué quand même le permis moto, je trouve, beaucoup plus que le permis voiture.
Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué ?
Bah, c'est plus compliqué parce que déjà, je maîtrise pas trop le deux roues. En fait, j'en ai fait vraiment pour tester il y a quelques mois, en fait, pour me dire, ok, bah, si je dois monter sur une moto, autant que j'essaye le scooter. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes repères. Mm-hmm. T'as vraiment l'impression et la sensation que tu peux vraiment te casser la gueule à tout moment. Bah, t'es sur deux roues. Hein, donc,
ce qui est le cas en
ce
plus.
Ce qui
hein.
est clairement le cas. Oui. Donc, je suis pas encore tombée pendant mes 6 premières heures de conduite. Mais en fait, c'est ultra déstabilisant parce que effectivement, t'as deux roues, tu dois apprendre à manipuler un engin où en fait tout est inversé parce que les vitesses se passent en fait à la main. Tu embrayes à la main et tu passes au pied. Les freins sont à la fois à la main et au pied. Il faut regarder partout, mais encore plus que pour la voiture. Vraiment, c'est en fait, il y a une règle en moto, c'est que le regard va diriger ta conduite. Et vraiment, c'est ah oui. ça qui va faire ta trajectoire, en fait. Et forcément, quand tu débutes, t'as tendance à regarder un peu ton guidon, à te dire, ok, je vais tomber, donc comment est-ce que je maîtrise le truc et tout. Et en fait, plus tu fais ça, plus c'est compliqué. Mais du coup, je suis trop contente parce que bah, déjà, c'est un truc que je kiffe faire. Donc, en fait, à chaque fois que j'y vais, je suis excitée comme une puce. C'est ultra physique, donc en général, je sors de là, je suis trempée, vraiment trempée au sens propre du terme. Et je suis trop contente d'apprendre de nouvelles compétences, quoi. C'est trop bien de, à 27 ans, en fait, repartir de zéro sur un truc et dire, ok, bah voilà, j'ai un professeur, il va me dire comment faire et tout. En plus, moi, je suis très scolaire. Donc, il me dit, fais ça, je fais ça. J'aime bien cocher un peu des cases et me dire, ok, là, il m'a donné ça comme objectif à la fin de la séance, il faut que je le réussisse, etc. Et puis en plus avec la perspective de me dire que peut-être dans 2-3 mois je pourrais conduire oui. toute seule ma propre moto, partir en road trip n'importe où, c'est assez ouf quoi. Et c'est un peu la même sensation que j'ai avec la course à pied, de liberté en fait. La moto c'est un truc de ouf en fait, tu prends ton sac à dos, tu te mets sur la moto et tu te barres. Bon, tu peux le faire aussi avec une voiture, mais oui. c'est moins sexy.
Tu peux le faire avec un vélo aussi.
Tu peux le faire avec un vélo également. Mais la moto, ça a vraiment un truc un peu en plus impertinent. Tu vois, surtout une meuf à moto. Je trouve que c'est toujours un truc, je me suis dit, oh, vas-y, je me verrais bien le faire. Et donc, du coup, je suis trop contente de faire ça. D'avoir eu, pas le courage, mais en tout cas le cran de me dire, bah vas-y, je vais quand même dépenser une sacrée somme pour me payer. Un truc dont j'ai pas vraiment besoin en fait. J'ai pas besoin de ça, j'ai le permis moto, j'ai le permis voiture, je me déplace à pied à Paris. En fait, c'est juste un truc en plus dans mon bagage qui fait que peut-être je pourrais voyager en moto, on pourra faire des road trips avec mon copain. Je pourrais du coup faire du scooter à Paris ou même ma moto me balader, enfin voilà, c'est trop cool. Donc là vraiment je suis au tout début encore du cursus. Là j'ai fait 6 heures, je vais avoir à peu près 12 heures de cours hors circulation. Donc en fait, le permis moto, c'est, on va dire, une quinzaine de cours hors circulation sur un plateau. En fait, ils t'apprennent à maîtriser la moto, donc juste maîtriser le poids, savoir conduire lentement. Et c'est notamment une des épreuves les plus difficiles du permis, c'est que tu dois conduire le moins vite possible en faisant un parcours très précis, super ambigu, qui fait que en fait si tu maîtrises pas la moto, bah en fait tu tombes et du coup tu n'as pas ton permis. Et après ça, il y a toute une étape en circulation qui a priori devrait être plus facile parce que bah je conduis déjà bon pas régulièrement mais j'ai mon permis depuis 7 ans et le code de la route bah du coup je l'ai repassé pour l'occasion cet été. En candidat libre.
Ça doit être différent non, de conduire en circulation une voiture que.
Je pense, mais après, en fait, apparemment, c'est pas ce qui. Enfin, c'est vraiment facile comme épreuve. C'est juste, en fait, voilà. Ils veulent voir si tu maîtrises le code de la route, si tu fais pas de conneries.
C'était pas dangereux.
Exactement, c'était pas dangereux pour toi ou les autres. Mais en fait, là, vraiment, la partie la plus dure, c'est toute la partie en amont, hors circulation, plateau, où tu dois montrer au moniteur et à l'examinateur que tu maîtrises la moto. Et c'est quand même des motos qui font entre 170-200 kilos. Donc même si je suis pas un petit gabarit, parce que je fais du sport, en plus ça je suis un peu costaud au niveau des cuisses, donc en fait j'ai pas trop de problèmes. Mais en fait c'est quand même un truc à maîtriser et ça prend un peu de temps, mais je suis trop contente. Le prof est trop sympa. En plus, vraiment, je suis tombée sur une auto-école de passionnés. Et c'est ça aussi qui est assez ouf et qui me fait trop kiffer, c'est que ça n'a rien à voir avec le permis auto, qui est en fait une formalité que tout le monde veut passer parce qu'ils doivent le passer. En fait, c'est comme ça. En général, en plus, moi, j'ai grandi en province. Mais en fait, si t'as pas la voiture, t'as rien.
T'as pas trop le choix. Hein.
Exactement. Alors que la moto, en fait, tu viens passer ton permis moto parce que t'es passionné. Et donc, du coup, en fait, les profs sont trop sympas et t'aident vraiment. Ils sont pas là en mode, vas-y, moi, je prends mon billet, je me casse. Ils sont vraiment, OK, attends, je vais t'apprendre. Mon premier cours, c'était avec le boss de l'auto-école. Il était trop sympa. 60 balais, un petit gars qui aime trop ça et en fait qui a juste envie de partager sa passion, quoi. Et qui accompagne, du coup, les gens là-dedans, quoi.
Wow.
Voilà, trop le kiff.
Donc, tu dis dans 2-3 mois, c'est ça, tu pourrais...
En fait, là, j'ai des prochains cours dans une semaine. J'ai 2 sessions. En fait, ça peut aller très vite, mais bon, je me dis dans 2-3 mois, quoi. Tant tranquillement de passer les épreuves.
Et tu vas t'acheter une moto après?
J'espère, ouais.
Wow.
C'est en projet. Mon mec est un gros passionné de Le Bon Coin. Du coup, sa passion de dénicher les choses sur Le Bon Coin.
Ah, yes.
Et du coup, il est déjà en train de regarder, alors que vraiment, je suis là, genre, attends, calme-toi, je sais pas encore la maîtriser. Mais je pense que je m'achèterai à terme, ouais, une petite moto, une saucisse, hein, un truc qui coûte pas cher.
Une quoi?
Un truc qui coûte pas cher et qui.
Une saucisse.
Une saucisse, tu vois.
Un truc, ça s'appelle comme ça?
Non, mais c'est une expression pour dire un truc bas de gamme, quoi.
Une
tu
petite
vois.
Moto.
Voilà, pour faire la main, tu vois, j'avais acheté une Twingo. Quand j'ai eu mon permis, que j'ai toujours parce que vraiment c'est un super modèle, Twingo première génération. Mais voilà, pareil, je pense que je m'achèterai une moto vraiment pour pas risquer de l'abîmer si jamais elle tombe, qu'elle coûte pas 15 000 euros. Quoi.
Bah fais surtout gaffe à pas t'abîmer toi, quoi,
oui, c'est
si,
ça.
Jamais,
oui, c'est clair, c'est
si
clair.
Jamais la moto elle tombe.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est le premier
c'est
truc.
Tu dis pour pas abîmer la moto,
oui.
Non, d'abord il y a toi.
Le premier truc qu'ils disent, qu'ils te demandent de lire quand tu t'inscris au permis moto, c'est le nombre d'accidents sur la route,
ah bah oui.
Qui est 25% de plus que permis voiture. Voilà, petite statistique.
Waouh.
Mais bon, après. En fait, si tu commences à te mettre des freins pour ça,
ouais,
tu fais
oui.
rien, quoi. Donc,
c'est sûr.
Voilà.
J'ai découvert, un peu par hasard, de mes pérégrinations sur YouTube, qu'il y avait tout un YouTube de motards.
Ah bah oui, ouh là là.
Ouais, je connaissais pas.
Ouais, oui.
Il y a vraiment des mecs qui ont des GoPros
et
qui passent leur temps à filmer. Et en fait, donc en plus, ils se foutent un casque, enfin ils ont un micro dans le casque, etc. Et ils sont en train de commenter ce qui se passe sur leur route.
Ouais, grave. Mon mec en regarde souvent.
Ok.
Ouais, et j'avoue, c'est assez cool en fait.
Ouais.
Et il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Lolo Cochet. C'est un daron, tu vois, qui roule en bécane depuis 30 ans et qui fait des road trips à l'étranger en moto. Et donc lui, pareil, il a sa GoPro, il fait des montages en plus. De ouf, vraiment, allez voir la chaîne YouTube de Lolo Cochet.
Ok, on mettra,
elle est incroyable,
on
vraiment.
Le lien,
hein. Elle est vraiment bien. Et du coup, récemment, là, il a fait tout le Maroc à moto avec un de ses potes. En fait, ils ont dormi dans le désert et puis ils repartaient le lendemain. Enfin, c'est trop bien, ils vivent des aventures de dingue. Mais effectivement, après, il y a les motards un peu plus urbains qui conduisent un peu à Paris, à Marseille et puis qui racontent leur life. C'est assez cool.
Et bon, y a un mec qui. Enfin, moi, j'avais vu une vidéo d'un mec qui était obsédé par les automobilistes qui roulent avec le rétroviseur droit rabattu, tu sais.
Ah.
Et en fait, il passe son temps à les doubler. Il passe son temps à les doubler et en même temps qu'il roule, il passe sur le côté. En fait, il rabat le rétro. C'est un peu un chevalier.
Attends, il y a des gens qui roulent avec le rétro
Ouais, alors moi par exemple avant d'avoir une voiture dernièrement, en fait comme les gens ils passaient on se gare en fait si tu veux et les mecs ils passent leur temps à flinguer en fait ça arrive que de temps en temps tu rabats pas le rétro et juste tu vas faire une petite course comme ça. Et donc donc ce gars faisait ça sans arrêt quoi. C'était son truc apparemment.
D'accord.
Chevalier de la route.
Trop drôle.
Voilà, c'était ma petite digression.
Je pense que j'en ferai un article sur Mademoiselle sur comment apprendre comment passer son permis moto, je pense que ça peut être cool.
Trop bien.
Voilà. Si vous avez des conseils, les auditeurs, pour une jeune motarde, je suis preneuse.
Mettez des commentaires sur YouTube.
Voilà.
Ou envoyez DM.
Des DM.
Petit DM. Cool.
Trop bien, ça te va trop bien. Moi, j'ai l'impression que tu as toujours fait de la moto.
Ah bah pas du tout. Mais c'est très cool.
Mao.
Silence.
Silence radio.
Mao, c'est à toi.
Alors, dans ce silence ASMR, je vous parle de mon gros kiff.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, veuillez vous allonger. Alors, mon gros kiff, c'est la troisième édition des Outdoors. Les Outdoors, c'est une cérémonie qui remet des prix pour les gens qui luttent pour la visibilité LGBT. Donc, pour cette troisième édition, ça se passe au Cabaret Sauvage. Le Cabaret Sauvage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à côté de la Villette.
Si.
Il y a eu plein de soirées là-bas. Il y avait la Flash, il y avait les toilettes. Donc, il y a plus de cyprine et de liquide séminal sur les murs que
partout ailleurs.
Que dans la chambre de...
Non, j'ai quand même dans ma chambre, on peut le dire.
Voilà, et la mienne... Bref, les murs ont des choses à raconter. Non, c'est parce que mon dernier souvenir du Cabaret Sauvage, c'était il y a un an, et j'ai un sketch dessus, et quand je me suis réveillée, genre, j'étais nue dans une fontaine à côté. True story. Mais pas seule. Avec une meuf, voilà.
Ok.
Voilà,
mais
voilà.
Tu veux dire dans une fontaine dehors ?
Dans une fontaine dehors, oui. Non,
comme
c'est,
ça.
C'est pas un jeu de mots avec la femme fontaine. Non, je te vois venir. Non,
je me disais qu'il y avait peut-être une fontaine dans
Il n'y avait pas une fontaine dans le Cabaret Sauvage, mais genre quand tu vas vers le métro, t'as une grande fontaine et puis.
Donc t'étais dans l'eau.
J'étais dans l'eau.
Nue.
Naked.
Nue, car mes vêtements étaient comme un tas à côté, avec les siens.
Et tu t'es endormie dans la fontaine.
Enfin, endormie, ça c'est pour la fiction, on va dire. C'est comme quand Netflix dit, pour des raisons dramatiques, nous avons inventé des dialogues. Je me suis peut-être assoupie 30 secondes, tout ça, on était en plein air au milieu de l'été, enfin, voilà.
Oui, on visualise très bien la scène.
Maman, si tu m'écoutes, tout est vrai. Alors, cette fabuleuse cérémonie aura lieu le 18 juin, 18 Gouin en Gouinistan. Je parle du Gouinistan parce que ma super copine Tani, qui est humoriste, qui fait partie du Comedy Love, est une des co-présentatrices cette année des Outdoors, avec une journaliste qui s'appelle Nora Boisani. Donc voilà, je suis très fière d'elle, très heureuse pour elle, ça va être ouf. En plus, c'est très drôle parce que depuis, elle a des haters. Et genre, sur Twitter, il y a un mec qui a mis en dessous d'elle « C'est ça, l'avenir de la France ?» J'étais comme genre « Bah oui,
c'est exactement c'est ça. » C'est même le présent.
Et c'est tant mieux, voilà. Et c'est tant mieux. Voilà, et cette année, truc un petit peu spécial, on est invité à voter pour sa personnalité préférée. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'AJL, de l'Association des journalistes LGBT, qui présente les personnalités. Et en gros, les personnalités, elles sont toutes plus ouf les unes que les autres. Pour, par exemple, vous donner des idées, il y a deux ans, c'était Shirley Soignon, donc qui est Dieu pour moi, qui avait gagné. C'est comme ça que je l'appelle, voilà, quand je la vois, elle me dit « Bonjour Mao », je dis « Bonjour Dieu », et on s'entend à merveille. L'année dernière, c'était l'actrice Camille Cotin, puisque c'était la première fois que au PAF à 20h il y avait une lesbienne. Voilà. Et donc cette année, je vous fais un petit tour des gens qu'il y a parce que moi j'ai eu, je sais pas, des orgasmes d'admiration pour tous les gens qui sont nommés. Julia Boyer, qui est une militante trans qui avait été agressée place de la République lors des manifestations pour l'indépendance de l'Algérie.
On vous mettra un lien dans les notes.
Exactement. En plus, à savoir que son agresseur a été comment dire, il y a eu le procès, il a eu une condamnation et c'est tout à fait inédit. Donc bravo à elle. David Valence, qui est un maire UDI, qui a dénoncé publiquement les attaques homophobes dont il a été victime. Bilal Hassani, dont on a tous entendu parler, voilà, magnifique chanteur.
On l'adore.
À perruque, voilà, et pareil.
Mais oui, on mettra le lien de la vidéo qu'il a faite avec Manu sur les perruques.
Et le Boys Club.
Océan. Comédien et réalisateur qui a fait un documentaire sur sa transition qu'on peut voir sur Slash TV et qui est juste magnifique. Moi, je l'ai tous regardé d'un coup.
On vous mettra aussi un lien.
Voilà, vous allez vous cultiver, vous allez rire, vous allez pleurer. C'est une magnifique traversée, voilà, de l'océan. Oh là là, bon, suite. Kiddy Smile, voilà, magnifique producteur, artiste, qui s'était fait remarquer parce que l'année dernière, à la fête de la musique, il a performé à l'Élysée et il avait un t-shirt avec marqué « Fils d'immigrés, noir et pédé ».
On vous mettra un lien aussi si vous voulez acheter le même t-shirt. Une députée LGBT LREM qui se bat pour la PMA. Rebecca Chaillon, qui est une autrice, metteuse en scène, performeuse et comédienne, dont le travail artistique, évidemment politique et le discours médiatique questionne les normes de la féminité. Blanche, mince, hétérosexuelle. Voilà, je suis désolée. Au début, chers auditeurs, je faisais des résumés, puis je finis par lire ce qu'il y a marqué. Chris, auteure, compositrice, interprète et productrice, ouvertement pansexuelle. Harry Debye, qui est une danseuse magnifique, qui a fait une vidéo pour Fresh, que je vous conseille d'aller voir aussi, où elle raconte que comme elle est racisée et ronde, lorsqu'elle se met en mouvement, son corps devient politique. Et elle donne des cours de danse à la folie, que j'ai déjà fait et qui sont trop bien. De voguing, voilà, qui est une danse très politique, et c'est super.
Un lien de la vidéo d'Élise
également. Et enfin, Baptiste Beaulieu, qui est un romancier, médecin généraliste et chroniqueur sur France Inter, voilà, et qui se bat sans relâche en faveur des minorités LGBT. Donc voilà, c'est mon gros kiff. Les places, vous pouvez les prendre à partir du 3 juin pour le 18 juin. Voilà, j'ai terminé. Je reprends mon souffle. J'étais heureuse de vous partager
quel enthousiasme.
Toute cette nomination, parce que c'est vrai, c'est beau, c'est fort et c'est magnifique. Tout ce qui se passe en 2019. C'est ça l'avenir de la France.
c'est même le présent.
Et même le présent, exactement. Le futur, c'est le présent.
Trop bien. Bon. Voilà. Est-ce que tu seras nominée l'année prochaine pour avoir monté le Comedy Love?
Bah écoute, j'ai envoyé des mails pour le Comedy Love soit nominée cette année, ça n'a manifestement pas fonctionné. Mais un putsch se prépare en interne peut-être. Allez, d'ici 3 ans.
On attend la prochaine édition.
Cool. Merci. Le fameux kiff que je voulais faire la fois passée, mais c'était trop parti en hippie, vraiment beaucoup trop.
Ah oui, il y avait trop de hippie.
Et que finalement, j'ai changé. Ah non.
Là, on n'a pas été très hippie, donc tu peux y aller.
Ah, j'y vais.
Tu peux y aller.
J'y vais, c'est le moment ou jamais.
Enfin,
c'est, bah oui, on va faire un peu de hippie. Je voudrais vous parler du silence aujourd'hui. Ça, c'est
oh
le
yes,
du
c'est so hippie.
Maître Fablo.
Et surtout.
Parle du silence.
Et surtout, j'ai fait un stage il y a quelques semaines. Un stage de méditation qui dure 4 jours, où en gros, pendant 4 jours, tu bosses sur la méditation, la pratique de la méditation d'une manière générale. Et au sein de ces 4 jours, il y a une journée complète, donc 24 heures, que tu passes en silence. C'est-à-dire que, alors le silence, c'est quoi? Ça veut dire, bon, bien sûr, tu ne parles pas, mais surtout, tu ne lis rien du tout, tu n'écoutes pas de musique. Tu
peux pas écrire,
tu pas les gens.
Tu peux pas écrire, voilà. Ouais. Et surtout, tu peux pas regarder les gens. Tu peux
ah ouais, aucun... dans les yeux ou seul, pas du tout quoi.
Pas du tout. Tu peux pas de contact visuel.
Faut que tu regardes tes yep pendant en fait, 24
tu peux...
heures.
Non mais tu peux regarder les gens, mais en fait, s'il y a un contact visuel, faut pas, fais pas. Oui. C'est-à-dire que l'objectif c'est de.
Pas de eye contact.
Voilà, c'est de pas de rester seul avec soi-même.
Pas d'interaction. Ouais. Ok.
Et à ma grande surprise, c'est le truc le plus dur que j'ai. Parce que pas parler, c'est cool. Enfin, moi, j'y arrive. En tout cas, j'ai aucun problème avec ça.
Je suis étonnée, pourtant.
Pourquoi? Parce que je parle beaucoup.
Tu es très bavard.
Ah ouais?
Ah ouais. Bah oui, non. Carrément.
Je parle pas beaucoup.
Ça dénonce.
Non, c'est vrai, je parle beaucoup. Non, je sais pas, je me rends pas compte. Non. Je dirais pas que je suis bavard. Je dirais pas que c'est mon truc.
Non, mais tu parles beaucoup.
Et t'aimes bien crier. Comment
je
t'as
vois pas... Je vois pas de quoi tu parles.
Ouais, ça a dû être pas facile, mais pour n'importe qui, c'est pas facile.
En fait,
c'est le eye contact qui était le plus dur.
Le eye contact, c'est le truc le plus dur. C'est-à-dire que, bah ouais. Enfin, rends-toi compte que c'est comme si là, on était là comme ça, et en fait, on se regardait pas. C'est très bizarre.
C'est très triste, gênant. Oui.
C'est vraiment très, très
étrange. Ça marcherait pas avec le format du podcast aussi. Hein.
Oui, c'est moins marrant. Ceci dit, on pourrait tester un épisode en silence. Complètement con. Et en fait,
ça
on a fait
meilleur, je pense.
Le truc le plus dur surtout, c'est de faire les repas, parce qu'en fait, on fait les repas tous ensemble. C'est on est un groupe de, je sais plus, on était 20 là autour d'une table. Et en fait, l'objectif aussi, c'est de manger en silence et donc de pas regarder les gens autour de toi. Tu parles pas avec les gens. Ouais, c'est vraiment dingue comme expérience. Et surtout, ils te demandent de faire attention à la façon dont tu manges, c'est-à-dire de manger en conscience aussi, de faire attention à, de faire attention. C'est un truc qu'on fait par exemple jamais, c'est-à-dire de te demander au milieu de ton repas est-ce que j'ai encore faim ou pas, et de te demander par exemple avant de te servir, tiens, de quoi j'ai vraiment envie, ou alors je me sers juste un peu automatiquement, c'est un buffet quoi, et de faire attention à ce que tu vas te servir en premier par exemple. Et est-ce que tu vas remplir ton assiette à ras-bord ou alors tu vas juste t'en prendre un petit peu en te disant je vais revenir une deuxième fois après. Et en fait, une fois que tu mets le truc dans ta bouche, de te dire ok, c'est quoi exactement ce truc-là, plutôt que de l'avaler un peu automatiquement.
en pensant à autre chose ou en parlant aux gens ou
parce que t'es en train de faire de façon très automatique ce que t'as l'habitude de faire, c'est-à-dire manger, ce qui est vraiment le truc le plus basique. Et en fait c'est marrant parce que ça m'a ramené aussi au moment où je suis devenu végétarien et j'ai fait en faisant gaffe un petit peu plus à ce que je foutais, enfin en faisant gaffe à ce que je foutais dans mon assiette, j'ai aussi fait attention à la façon dont je mangeais d'une manière générale et à ce que je mettais dans mon assiette. Et j'avais tendance à me faire des grosses assiettes. Parce que ça, ma mère, elle m'a toujours dit « Hey, faut que tu manges, hein, tu sais, sinon après, tu vas mourir de faim. » Et en fait, j'avais...
Heureusement que les mamans sont là pour nous le rappeler, hein, sinon combien seraient morts.
C'est vrai.
Moi aussi, ma mère, j'avoue que je rentre chez elle, c'est « Hey, faut boire, hein, et faut manger. » Mais tu vois, je fais comment quand t'es pas là? En fait, je dépéris en attendant que tu m'envoies un texto pour me rappeler de manger ou...
Exactement. Et j'avais cette tendance aussi à finir mon assiette systématiquement. Parce qu'on m'a toujours dit... Si tu finis pas ton assiette, après tu gaspilles, il y a des enfants qui meurent de faim, tu sais, le truc de la culpabilité qui va
oui,
avec, etc.
Ma mère aussi, elle m'avait dit ça, et quand j'étais petite, j'avais répondu, on s'en fout, on est riche. Mais bon, j'avais pas...
Mais t'as raison. Mais en même temps...
Maintenant, je pense plus ça. Hein.
Non, mais en même temps, c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est idiot comme remarque
oui, de toute façon, c'est pas la faute de l'enfant.
C'est
oui,
ce
qui finit pas son
culpabilité.
Assiette. S'il y a le tiers-monde, ok.
Ton enfant, tu comprends pas. Moi, on me disait. Enfin, du coup, je mettais des spaghettis dans des enveloppes et je tenais à les mettre dans la boîte aux lettres.
Oh, t'es chouchou, bidou. Chou. Bah oui, mais ça a pas de sens.
Entendu, ma mère me disait que j'étais folle. Mais du coup, oui, c'était absurde parce que du coup, j'allais au bout du raisonnement. J'étais en mode, bah, on leur envoie en Afrique.
Bah alors, pas de problème.
C'est un pays entier. Enfin, voilà, t'as 5 ans, quoi.
Moi, j'en ai juste retiré un fort sentiment de culpabilité qui me poursuit encore aujourd'hui.
Bah oui. Toute cette société judéo-chrétienne, mais on passe ça avec. Et en tout cas, ces repas, on en a fait 3 repas en silence. Ils devenaient de plus en plus faciles aussi pour moi. Et en fait, t'as carrément des organismes qui organisent des semaines complètes de. Alors, t'es pas obligé de. Parce que il y a. La moitié des infos, bien sûr. Mais il y a moyen d'aller en retraite, par exemple, méditative, comme ça. Alors, tu peux y aller en France dans un monastère. Tu peux faire un week-end, apparemment, où tu es en silence complet. Alors après, je ne sais pas trop si ils vont jusqu'à tu ne regardes pas les gens, etc. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Ou sinon, tu peux aussi faire ce truc en Inde, notamment, où tu rentres dans un temple. Et du jour au lendemain, en fait, c'est 11 jours où tu ne parles pas, où tu es vraiment... T'es avec toi-même, quoi. C'est assez. Apparemment, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça. Nous, on l'a fait de façon très cool, hein. C'est-à-dire qu'on est. Ils t'incitent à te dire, OK, donc là, bientôt, on va arrêter. Et puis ça va bientôt
enfants,
arriver. Bientôt. Et puis de revenir dans le silence, de briser le silence aussi, c'est-à-dire de revenir à parler. Il y a tout un truc aussi qui était trop bien où tu vas échanger avec une personne en venant chuchoter. Comment t'as vécu cette expérience-là avant de commencer à reparler normalement. Et il y a aussi un organisme. Alors, je mettrai un lien parce que, en fait, peut-être que c'est un truc que je vais faire. Alors, venez pas forcément avec moi, c'est parce que pour ça que je veux le dire, mais juste, il y a un organisme qui organise des marches comme ça, méditatives, où tu fais une rando dans le désert pendant une semaine de silence complet. Donc, tu parles pas avec les gens, t'es juste toi avec toi-même.
Oh, c'est dur.
Quelle angoisse!
C'est dur. Parce que marcher dans le désert déjà.
Je ferai des crises.
C'est une galère, mais alors.
Si tu peux pas te plaindre.
Si ça, tu peux pas te plaindre et devenir un peu zinzin, tu vois.
Devenir c'est... un peu zinzin.
Bah non, mais parce que quand. Enfin, je fais le rapport avec la course à pied, quand tu cours très longtemps, à un moment donné, tu parles tout seul, tu vois. Tu te rassures et tout. Et du coup, le fait de marcher dans le désert pendant une semaine sans pouvoir parler.
Mais c'est pas forcément un effort.
Oui, bien sûr.
Tu sais, je pense que c'est des petites randonnées, quoi. Tu
mais
vois.
Même, tu vois.
C'est pour s'occuper. Ouais, parce que le vrai truc aussi, c'est que dès qu'on sortait pendant ces 24 heures-là, dès qu'on sortait des repas, en fait, on avait tout le temps un temps de latence avant de retourner dans le truc qu'il fallait qu'on fasse. C'est qu'est-ce que tu fais? Et bah, tu vas te balader, en fait. Enfin, ouais. Je sais pas, ou tu restes, tu t'assois et puis tu regardes le temps qui passe.
Et tu réfléchis.
Bah oui, t'as pas d'autre choix, de toute façon.
Mais c'est bien, non, du coup, tu t'es retrouvé. Enfin, parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a moins de concentration avec les téléphones portables.
Ouais.
Moi, j'ai du mal parfois pendant 3 minutes à rien faire et je me dis, tu fais rien. Et donc, tu t'es retrouvé.
Bah oui, c'est ça.
T'es-tu rencontré?
Je me suis retrouvé, ouais. Bah, t'as pas trop le choix, en fait. Hein. Vraiment, pendant 4 jours, là, comme ça, c'est.
C'est-à-dire que tu dois faire face même à tes douleurs, à tes.
Alors, après, tu vas plus. C'est-à-dire que la méditation, de base, là, tu médites pendant 4-5 heures par jour, à peu près. Donc, c'est vraiment où t'es seul avec toi-même. Et il y a.
Honnête avec toi-même, tu peux plus rien te cacher. Tout ce que t'essayes d'oublier, tu dois y faire face.
C'est possible. Il y a des gens qui vivent des trucs de façon très très différente, ouais. Mais il y a notamment eu dans le groupe. Deux personnes qui sont complètement parties en couille, pour qui ça a été une vraie,
ouais.
un vrai truc, mais libérateur, à la fois violent et libérateur, quoi. Parce que il y a un moment où quand t'es face à toi-même, tu as le choix. En fait, tu peux faire comme si de rien n'était, ou alors il y a un moment où tu peux aller creuser un peu et aller te rendre compte de ce qui se passe, quoi. Voilà. C'était bien le silence. Et ceci dit, j'avais une autre anecdote aussi qui était marrante, c'est que j'avais déjà testé pendant 5 heures quand j'étais allé en Inde, là, en 2017. Ouais, ça a duré 5-6 heures. Et on avait fait que le repas du soir. En fait, ce qui était marrant, c'est que donc on était 40 dans ce groupe, donc on occupait une grosse partie du restaurant, et c'était le fameux soir où l'hôtel avait dit, il y a un groupe de musique de venir, en fait. Et donc, le groupe est venu, il y avait peut-être 15-20 autres personnes avec nous dans l'hôtel à ce moment-là. Et en fait, les mecs avaient terminé de jouer, personne ne les applaudissait.
Oui.
Nous, on était juste en train de manger, comme si de rien n'était. C'était vraiment la grosse tristesse, quoi. C'était un moment sympa, ceci dit.
Ah, c'est drôle. J'aimerais bien arrêter de parler.
C'est vrai?
Pendant un moment. Ça serait une bonne vidéo, non?
Bah oui,
ça serait trop bien comme
vidéo. Il y a Lise qui avait fait ça. On vous mettra un lien aussi dans les. Elle avait fait ça pendant une semaine, elle n'avait pas parlé.
Ouais.
Mais pas parler d'aller chercher ton pain, tu parles pas, en fait, et de te faire comprendre par autrui sans parler. Parce qu'elle trouvait qu'elle parlait trop. Elle parlait trop et pour rien dire souvent. Ouais, ouais. Juste parce qu'en fait, elle aimait pas le silence. Et donc, elle avait ce côté un petit peu, dès qu'il y a du silence, je vais parler, quoi. Ouais, okay. Voilà. Ouais. Donc, elle avait testé ce truc-là. Mais effectivement, en vidéo, ça pourrait être.
Elle avait tenu, elle en avait fait quoi comme conclusion?
Bah, elle avait tout un article où c'était assez, de son point de vue, je pense que c'était une vraie expérience de chemin personnel par rapport à justement ce côté je parle. En fait, elle venait au bureau, elle parlait pas. Enfin, c'était vraiment assez intéressant, quoi.
Je sais pas pourquoi ça m'attire. J'ai pas l'impression de trop parler pour rien dire. J'essaie de pas faire ça.
Bah,
Donc, je sais pas où j'en suis, mon chemin personnel et tout. Mais j'ai le souvenir, étant ado, où là, je pense que je me posais beaucoup plus de questions sur ma personnalité, comment être, comment truc. J'ai le souvenir d'être allée à une fête et il y avait un mec qui m'impressionnait.
Elle allait dire que j'ai pas parlé pendant toute la fête.
Parce que, non, mais moi, je connaissais pas grand monde à cette fête et tout. J'étais plus jeune que la moyenne des gens qui étaient là. Et il y avait un gars qui m'impressionnait beaucoup parce que c'était le roi des hippies. Genre, c'était une fête de hippies. Hein. Moi, j'étais très hippie quand j'étais ado.
Ah bon?
Et donc, sans déconner. Et juste après avoir été sataniste. Et...
Putain, il y avait des gros lots de cheveux.
Non, j'ai eu une ATBA.
C'est vrai?
J'ai eu des tresses aussi.
Oh,
ouais. J'ai eu des tresses.
Je veux des photos. Je veux des photos avec ça.
Vous les aurez.
Comme sataniste ou hippie, comme quoi. Y avait...
Ouais, mais il me fallait quelque chose pour me démarquer, tu vois. Et donc, bref, ce mec à la fête, j'étais tombée en admiration parce qu'il parlait pas. Et j'étais là, waouh, lui, il maîtrise bien son truc. Genre, je sais pas, ça m'avait impressionnée. J'y pense encore aujourd'hui. Je me rappelle de m'être dit consciemment, waouh, en fait, lui, ce qu'il rend cool, c'est qu'il parle pas.
Ouais.
Et que quand il parle, par contre, et bah, tout le monde l'écoute et il dit des trucs vraiment intéressants. Et ça m'avait vraiment marqué.
C'est marrant, c'est dans Good Morning England. Oui, le film sur il y a un mec, le mec qui fait la nuit, en fait il parle pas, il est hyper mystérieux et c'est un gros tombeur parce que il parle pas, comme il parle pas, les meufs se disent tous
oh my god,
il est mystérieux. il doit penser tellement de choses à l'intérieur alors qu'en fait il est con comme une comme un pied, quoi, ceci dit. Bon, voilà, c'était
trop cool.
C'était mon kiff.
Faut être courageux en tout cas pour faire ça, je pense.
C'est
moi, j'aurais pas le courage. Je sais que je parle trop, que j'ai perdu du silence. Je suis pas encore assez mature pour le faire.
Mais c'est un chemin.
Peut-être la flemme aussi, j'aime bien vivre. Donc, non, je sais quand même.
T'es pas la pâteuse après?
J'attends
40
ans
de pas parler.
Ou j'attends.
Non.
Non.
Mais tu as le droit de boire quand même.
Oui. Ah, j'ai pas compris le défi. Alors,
c'est
pas
mort.
C'est pas non plus. Tu fais du jeûne et tout, non? T'as le droit de boire.
Ouais, ok.
Mais c'est un chemin, c'est-à-dire que je pense qu'à 25-30 ans, je l'aurais pas fait.
Ok.
Aujourd'hui, en fait, c'est le moment. Mais ceci dit, je pense qu'avec le recul, j'aurais dû le faire à 25-30 ans. C'est que c'est vraiment très intéressant comme expérience.
Allez, Mao, si tu veux, on se prend une petite semaine de vacances et on se calcule pas.
Yes, bonne ambiance.
On va faire des belles stories. En train de rien faire.
Mais non,
t'as pas le droit d'utiliser au téléphone.
Et pourquoi t'aurais voulu le faire à 25 ans? Ça m'intéresse. Quelle leçon tu en aurais retenu qui t'aurait aidé dans la vie?
Bah, parce qu'en fait, je pense que c'est.
Est-ce que tu peux nous les donner comme ça? Nous, on a pas besoin.
Moi, j'ai besoin de gagner du temps. J'aimerais bien gagner 5 ans, là.
C'est le genre d'épreuve qui t'aide à mieux te connaître. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux se connaître le plus tôt possible dans sa vie plutôt que le plus tard possible. Parce que si tu t'apprends le plus tard possible, si tu apprends à te connaître le plus tard possible, à la fin, ça veut dire que tu as fait plein de trucs
qui n'étaient pas forcément...
ou qui n'étaient pas forcément en raccord avec qui tu es. Enfin, je pense, hein.
Mais c'est quoi se connaître? Ce podcast va jamais finir, ça doit s'appeler le plus long podcast.
Bah, c'est oui. Au suicide, on a fait 1h15.
Bien joué.
C'est
le podcast du kiff et de la digression, donc tu as tout à fait le droit de digresser, hein. De dériver.
C'est l'objectif, hein, de digresser. Mais ouais, je sais pas, je pense que c'est mieux de se connaître que parce que j'avais fait tout un kiff sur le fait de vieillir, et je pense que c'est bien de vieillir aussi.
Voilà.
Mais c'est ça se termine alors.
Ouais, ah ouais.
Je pense qu'on a fait tout.
Une petite note de sérénité comme ça.
Oui.
On dépasse. On a un truc chamanique.
Ouais, c'est bizarre.
N'hésitez pas à vous mettre en silence.
Les lances. Ouvrez les poignets vers nous.
Ah ouais.
Commencez à éteindre votre ordinateur.
Bon, en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Laisse-moi kiffer.
Ouais.
Ça t'a plu, Mao?
Ça m'a beaucoup plu.
Tu voudras revenir de temps à autre?
Oui.
Ça te dit?
Faut que tu les écoutes maintenant. Tous.
Au début.
Ah oui.
Parce que j'en ai écouté deux avant de venir. En fait, il y a un fil rouge depuis le départ. Il n'y a que moi qui suis au courant. Parce qu'il n'y a que moi qui écoute tous les épisodes. Dans cette team. Vraiment, écoute
le premier et le dernier. Celui de vieillir, justement. C'était le dernier.
C'est possible. Je sais plus.
Oula, vous savez une bêtise.
Non, c'est probable, c'est ça. En tout cas, merci à vous d'être venus, merci à vous d'avoir écouté. Rendez-vous la semaine prochaine, tous les mercredis. Vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube, vous abonner, mettre des bonnes notes au podcast, comme ça après, nous, YouTube, iTunes, ils disent ouais, vas-y, c'est trop bien. Ce podcast, c'est
comme
le meilleur podcast.
On est content.
On a des cœurs.
Exactement. Et puis surtout, vous pouvez envoyer des petits messages aux meufs, etc. Comme ça, pour vous dire un petit peu. Pour leur dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce que vous avez raconté. Mettez des commentaires sur YouTube, c'est toujours bien les commentaires sur YouTube. Et d'ici la semaine prochaine,
touchez-vous bien le kikif !
Et voilà.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.